est midi sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne et j'ai le plaisir d'être en direct de nos studios. Voilà, le retour au studio se poursuit, se termine et on espère bientôt, chers auditeurs et chers adhérents, pouvoir tous vous recevoir de nouveau dans nos murs. Aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec la MSH Val-de-Loire, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Rivière. Bonjour Arnaud Rivière.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités, directeur de l'IAE Tours Val-de-Loire et membre éminent du laboratoire Valorem. Donc c'est à tous ces titres que vous êtes ici aujourd'hui dans la Méridienne. Et puisque nous sommes la radio étudiante, peut-être voulez-vous commencer par expliquer ce qu'est l'IAE.
Donc l'IAE, c'est l'Institut d'administration des entreprises, donc c'est l'école universitaire de management. Et donc nous sommes donc pleinement intégrés au sein de l'université, nous sommes une section de l'UFR Droit, Économie et Sciences Sociales, donc de Lyon, on se trouve au sein de la faculté. Et donc on forme les étudiants du Bac plus 1 au Bac plus 8, avec une panoplie de Bac plus 5 extrêmement importante. Et l'idée c'est de former donc en 5 ans, voire en 8 ans pour ceux qui poursuivent en doctorat, mais pour la plupart en 5 ans, aux différents métiers de la gestion. Donc on a une licence avec 3 parcours, un parcours classique où on les forme vraiment en 3 ans jusqu'à la L3 progressivement. Donc en première année ils font de la gestion, mais également de l'économie, du droit. Puis progressivement, en L2, L3, ils montent en compétences dans les différentes disciplines de la gestion. On a également un parcours management international, où là, l'objectif, c'est, durant la licence 3, les étudiants partent pendant un an à l'étranger, parmi nos différents partenaires. Et puis, on a également une licence parcours entreprise, où là, l'objectif, c'est en troisième année, notamment, ces étudiants font leur troisième année, donc en apprentissage, totalement en apprentissage. Et puis après, en master, il y a différents types de masters. Il y a des masters en marketing, en ressources humaines, en management des PME, entrepreneuriat, en finance, en contrôle de gestion, et puis également un autre diplôme en management de la qualité des projets. Donc on a vraiment une panoplie de différents diplômes, et l'objectif c'est vraiment de former en 5 ans nos étudiants donc, à la gestion.
Alors, quel type de bac, permet d'avoir le plus de chances de son côté pour entrer à l'IAE?
Alors la quasi-totalité viennent de bacs généraux. Alors après, c'est ce qu'on appelait avant les anciens bacs S ou ES. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on demande un bagage scientifique relativement important. En fait, l'idée, c'est qu'il faut être à l'aise avec les chiffres, puisque dans la gestion, il y a beaucoup de chiffres. Alors il y a beaucoup de chiffres dans la finance, dans le contrôle de gestion, mais également on fait de l'analyse de données, même en marketing, quand on fait des études de marché, on a besoin de chiffres. Donc l'idée c'est d'avoir des étudiants qui puissent être relativement à l'aise avec les chiffres, d'où l'intérêt et d'où l'objectif de recruter des étudiants qui ont, ou d'inciter des étudiants à postuler et avec plutôt un parcours scientifique, entre guillemets, avec une bonne connaissance des maths notamment, qui soit à l'aise avec les chiffres, ça c'est l'objectif.
Est-ce qu'il existe des modules de remise à niveau pour certains étudiants?
Alors pour l'instant, non, on n'a pas de module de remise à niveau. Après, c'est vrai qu'on a des TD dans les premières années qui permettent justement d'aider les étudiants justement à se mettre à niveau, mais on n'a pas pour l'instant de module de remise à niveau, puisqu'on a un tel flux d'étudiants que l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir accueillir les étudiants qui peuvent avoir le niveau. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de module de remise à niveau, non.
C'est combien d'étudiants alors, c'est l'IAE? Ça représente combien d'étudiants par...
Alors l'IAE en tout, de la L1 au Bac plus 5, on est à 1134 étudiants de tête. Donc c'est des étudiants qui sont très nombreux. Alors bien évidemment, en première année, ils sont plus de 300, ils doivent être 350. Et puis après, en deuxième année, ils doivent être aux alentours de 180. En troisième année, ils sont 150. Donc après, il y a une diminution assez logique. Mais c'est vrai qu'on a, il y a une attractivité de plus en plus forte de la filière de gestion. Par exemple, cette année, sur Parcoursup, en première année, on a eu plus 34% d'effectifs qui ont souhaité demander d'intégrer la licence 1 de gestion. On fait partie des filières de l'université qui sont les plus demandées. Alors c'est bien parce que c'est vrai qu'en termes d'attractivité c'est positif. Après derrière, il faut suivre aussi en termes de moyens, en termes d'accompagnement pédagogique, puisque l'idée c'est aussi de pouvoir garantir la qualité de nos enseignements, notre encadrement. Donc c'est tout l'enjeu aussi de pouvoir à la fois satisfaire la demande, mais également de pouvoir être à la hauteur en termes de qualité d'accompagnement pédagogique.
Et alors c'est plus 34% d'étudiants postulant via Parcoursup, à quoi ce serait dû à votre avis? Pourquoi cet engouement pour l'IAE?
Alors, je n'ai pas d'explication particulière. On voit que c'est une tendance qui est assez générale. Donc il y a vraiment une attractivité forte des filières de la gestion. Alors après, pourquoi cette année plus 34%? C'est vrai que j'ai pas d'explication particulière. Alors peut-être que la notoriété des IAE, le fait que bon nombre de nos formations, notamment master et notre L3 en partie se fait en apprentissage. L'international peut être aussi un élément d'attractivité auprès des étudiants, notre communication. Le fait effectivement que notre licence 1 et 2 est relativement récente, puisque on l'a lancée en 2018. Donc c'est vrai que on est monté en charge progressivement. Donc peut-être qu'elle bénéficie d'une plus forte notoriété également. Donc je pense qu'il y a un ensemble de raisons, mais on voit que cette augmentation est pas que locale, elle est également nationale, au niveau de l'attractivité des filières de gestion.
Voilà, donc c'est peut-être un sujet à étudier dans les années à venir, voir si ça se poursuit. Peut-être qu'on aura plus d'explications
Oui.
il faut du temps. Alors en fait, si j'ai bien compris, vous avez commencé par avoir un master et ensuite vous avez construit une licence, c'est ça?
Alors en fait, oui, historiquement, et je dirais dans le cœur de métier de l'IAE, l'IAE à la base, c'est. Alors l'IAE, c'est un réseau en fait national. C'est comme le réseau Polytech, les écoles d'ingénieurs au sein de l'université. Donc il y a 35 IAE en France. Les premiers IAE ont été créés il y a plus de 60 ans. Celui de Tours a été créé officiellement en 96, mais avant 96, il y avait ce qu'on appelait l'IGT, qui était l'Institut de gestion de Touraine, qui était l'ancêtre de l'IAE de Tours. Et donc, effectivement, le cœur de métier en fait des IAE, c'est d'abord la formation continue. C'est le second cycle, donc le niveau master, en formation continue. Et puis progressivement, on s'est développé en formation initiale, en master, puis après en licence 3. On avait ce qu'on appelait une licence suspendue. Donc pendant très longtemps, on avait licence 3, master 1 et master 2. En fait, les étudiants intégraient notre licence 3 et ils venaient principalement d'un DUT, du GEA, du TC. C'était 70% de notre effectif qui intégrait notre L3. Et puis il y a 2 ans, en fait, la filière AES a fermé ici sur le campus des Deux-Lions. Et en parallèle, on nous a demandé donc d'ouvrir une licence 1 et 2 en gestion, à côté donc de la licence d'économie. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une offre de formation qui va du bac plus 1 au bac plus 5 en gestion. Mais c'est vrai qu'historiquement, on est vraiment. Notre plus-value en tant qu'IAE, c'est vraiment concentré sur le second cycle. Donc, niveau master, en formation initiale, mais aussi ce qui fait la force des IAE, c'est l'apprentissage, puisque tous nos masters sont en apprentissage. Et ça, c'est un élément extrêmement important en termes d'insertion professionnelle. On voit qu'il y a un véritable impact en termes d'insertion professionnelle. Et puis, on a également de la formation continue. L'IAE est extrêmement investi sur la formation continue. On a 3 masters, on avait 4 masters, on en a encore 3 masters en formation continue avec des groupes spécifiques de personnes qui sont en reprise d'études ou en reconversion professionnelle. Donc ça, c'est vraiment la particularité de l'IAE, à la fois l'apprentissage et la formation continue.
Alors, pour être un peu dans la provocation, est-ce qu'on peut dire qu'un IAE, c'est une école de commerce du pauvre?
Alors c'est pas une école de commerce du pauvre, mais effectivement, souvent on nous amène à nous prononcer sur la différence entre les écoles de commerce et l'IAE. Et en fait, la grande différence, c'est le business model, c'est le modèle économique derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une contribution directe en école de commerce de la part des étudiants ou des parents d'étudiants, alors qu'à l'IAE, c'est le système de l'université. Et du coup, le modèle économique est complètement différent, puisqu'il y a une contribution indirecte par les impôts de tout à chacun. Mais quand on chiffre ce que peut représenter le coût d'un étudiant en licence ou en master, on est à peu près à 9 000 euros, ce que coûte un étudiant. Et ça, c'est un discours d'ailleurs sur lequel je communique auprès des étudiants. Je trouve que non pas pour les rendre coupables de leur présence, bien au contraire, mais pour les responsabiliser en leur disant que vous avez une chance incroyable en France de pouvoir bénéficier d'un système d'enseignement universitaire public qui est accessible au plus grand nombre, mais qui coûte quand même. C'est un investissement de la société. Et 9 000 euros, c'est ce que coûte donc un étudiant à peu près en IAE, licence master, c'est le prix d'une très bonne école de commerce. Donc finalement, on est effectivement la réponse publique de l'offre privée en école de commerce, à la différence près que, en plus, dans les IAE, on repose, donc en fait, on est une pleine composante de l'université. Et il y a vraiment un ancrage académique, universitaire, que l'on ne retrouve pas souvent ou pas systématiquement en école privée. Donc on n'a vraiment pas à rougir de la qualité de l'enseignement en IAE. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais lorsqu'on regarde, il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'études qui sont faites pour comparer le système des écoles privées versus les écoles de universitaires de management, donc les IAE. Et à chaque fois, la conclusion est la même, c'est que l'offre de formation est de qualité identique avec les offres privées de formation. Donc on est vraiment à la fois, on forme au même métier et sur des approches similaires.
Comment ils réagissent vos étudiants quand vous leur dites gentiment que leur scolarité à l'IAE coûte 9000 euros?
Ils sont souvent surpris en fait, parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu. Donc ils sont assez surpris et ça leur fait prendre conscience de suite qu'effectivement, y a un investissement sur eux. Il y a un investissement parce que le fait d'être dans des locaux, dans des amphithéâtres, le fait d'avoir en face d'eux des enseignants-chercheurs, parce que ça c'est quand même une spécificité de l'université, d'avoir des enseignants-chercheurs, tout cela a un coût ce n'est pas un coût qu'ils supportent, mais pour autant c'est un coût qui existe. Et souvent, ils sont assez surpris en fait, de l'importance du coût. En fait. Et quand on le met après en relation avec le prix des écoles de commerce, ils voient finalement que oui, finalement, puisque souvent on estime que la qualité est reflétée dans le prix. Alors effectivement, la qualité n'est pas reflétée dans le prix en tant que frais universitaires, parce que les frais universitaires sont 300, 400 euros, 500 euros. Mais voilà, on est sur du 9000 euros, donc là on voit bien que la qualité est bien présente au travers de ce prix.
Vous pensez que c'est important de permettre à, disons, le plus large public possible d'accéder à ce genre d'études? Je pense aussi à l'EPJT par exemple, une école publique de journalisme à Tours.
Oui, pour moi c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'en fait on a des publics, me semble-t-il, différents. C'est-à-dire que souvent on nous met en concurrence avec les écoles privées implantées à Tours. En fait, on voit bien que quel que soit le devenir ou la bonne santé ou non de ces écoles privées, on voit que notre nombre d'étudiants ne dépend pas en fait de ces acteurs privés. Donc on voit bien qu'on est sur des publics qui sont différents. Le public d'IAE n'irait pas vers ces écoles privées pour différentes raisons. Et inversement, les étudiants qui vont en école privée, ils vont pour des raisons bien précises qui, pour la plupart, ne viendraient pas en IAE. Donc on est vraiment sur des publics différents. Et oui, la réponse publique en école de management et universitaire est essentielle. Moi, j'en suis un pur produit. J'ai fait tout mon parcours universitaire justement à l'université. Et c'est essentiel de pouvoir offrir cette possibilité-là aux étudiants. Parce qu'en plus, je crois vraiment qu'on a des profils d'étudiants qui sont spécifiques et avec des valeurs spécifiques. Et souvent, ce que l'on retrouve, alors c'est pas en comparaison des écoles privées, mais du moins, je trouve ce qu'on retrouve souvent chez nos étudiants, c'est l'humilité. Et d'ailleurs, je leur dis souvent, parce que ça, cet élément-là, il est essentiel. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour leur dire où va les temps, et si on vous propose moins de temps, il ne faut pas accepter. On n'est pas dans ce discours de, entre guillemets, bourrage de crâne, mais on est plutôt dans, effectivement, essayer de travailler avec eux différentes valeurs. Et l'humilité, c'est souvent une valeur qui caractérise assez bien nos étudiants à l'IE.
Ça s'enseigne, les valeurs morales? On peut enseigner ça ou pas à des étudiants?
Alors, je ne sais pas si ça s'enseigne, mais ça se transmet et on essaie d'être vigilant à la fois sur le savoir, mais également sur le savoir-être. Ça, c'est extrêmement important. Et le savoir-être, ça passe par du professionnalisme, par de l'écoute, par du travail en équipe. Il y a beaucoup de travail en équipe, des projets qu'ils doivent mener. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours évident de travailler avec des personnes qui ont des méthodes différentes, qui ont des approches différentes. Mais on essaie justement de cultiver ce bien vivre ensemble et ce bien travailler finalement ensemble. Et ça, c'est important. Donc, il n'y a pas d'enseignement en tant que tel des valeurs. Mais c'est vrai qu'il y a une attention particulière sur le fait de travailler en groupe, le fait d'être à l'écoute, le fait d'être solidaire. On insiste aussi beaucoup sur la solidarité dans les groupes, sur les groupes TD ou au sein des promos. Donc, on est très vigilant aussi sur le comportement professionnel, sur la ponctualité, sur le professionnalisme, sur la manière dont ils peuvent s'adresser à différents interlocuteurs, à la forme de leur mail, par exemple, au fait que, voilà, moi, souvent, j'interpelle les étudiants sur leur faute d'orthographe au sein des mails. Et j'ai même instauré, avec un certain nombre d'entre eux, le fait de répondre uniquement s'il n'y avait pas de faute dans leur mail. C'est autant d'exemples qui montrent qu'on est très attentif aussi à ces valeurs, à ces aptitudes professionnelles et à ce savoir-être.
Et alors, on les retrouve où, vos étudiants, une fois diplômés? Ils s'en vont travailler où?
Alors, vu qu'on a une très grande diversité de masters, en fait, on les retrouve un petit peu partout. On peut les retrouver dans des PME, dans des grands groupes, en région, centre ou en région parisienne ou dans toute la France, dans des fonctions très variées, puisque ça peut aller du contrôle de gestion au responsable marketing, en passant par le responsable de la politique digitale, par exemple, de telle entreprise. Les secteurs d'activité sont extrêmement diversifiés. Certains travaillent dans des banques, dans des cabinets d'audit, dans la grande distribution, dans le tourisme. Et puis on a également des étudiants qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc ils vont créer leur entreprise et partir vers de nouvelles aventures. Donc on a vraiment une très grande diversité de débouchés. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de l'IAE, c'est qu'au regard de la diversité des diplômes que l'on propose, eh bien on peut finalement s'adapter, ou du moins les étudiants peuvent trouver réponse pour finalement mener à bien leur projet professionnel.
Il me semble que comment dire, vos filières sont un des premiers fournisseurs entre guillemets d'étudiants autant entrepreneurs, pardon.
Oui, alors il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, puisqu'on a un master management des PME et entrepreneuriat. Donc c'est vrai qu'il y a un accompagnement, on travaille beaucoup avec le dispositif Pépite de l'université, qui est un dispositif qui a beaucoup de valeur finalement aux yeux des étudiants et auprès de nous, hein. C'est vraiment un accompagnement de qualité. Donc ces différents dispositifs font qu'effectivement, et l'université de Tours en particulier, propose un accompagnement de qualité, hein, pour justement ces étudiants qui souhaitent créer leur entreprise. Et ce management des PME et entrepreneuriat est aussi une réponse tout à fait adaptée pour ces étudiants qui veulent créer leur entreprise.
Voilà, une dernière question sur l'IAE, Arnaud Rivière. Avant de faire une pause musicale, on voit là en signature de votre mail un appel à la taxe d'apprentissage. Alors c'est quoi?
Alors la taxe d'apprentissage, c'est un dispositif qui permet en fait de pouvoir. Donc les entreprises ont une obligation de verser. Alors cette année c'est 13%, 13% de l'équivalent de leur masse salariale qui permet ensuite d'être orienté vers des acteurs de la formation. Et donc ça c'est une démarche en fait qui nous permet nous de communiquer. Alors on a fait une démarche proactive auprès de différents partenaires pour justement pouvoir inciter ces entreprises qui doivent légalement verser ces 13%, eh bien de nous les verser à nous plutôt qu'à d'autres acteurs. Et c'est important que vous puissiez signaler ça, puisqu'en fait ça montre aussi toute la démarche dans laquelle se trouve l'IAE, c'est-à-dire que nous cherchons vraiment, puisqu'on le sait bien, hein, les ressources publiques se font de plus en plus rares. Avec l'autonomie des universités, on nous incite, hein, aussi à développer ce qu'on appelle les ressources propres de l'université. Et je pense qu'à l'IAE et plus globalement à l'UFR Droit, Économie et Sciences Sociales, on a vraiment entrepris une démarche proactive de recherche de fonds propres, de ressources propres. La taxe d'apprentissage en fait partie. Il y en a d'autres. Il y a l'apprentissage, il y a la formation continue, qui sont autant de solutions qui permettent aussi d'associer pédagogie et puis recherche de fonds, puisque c'est important pour développer de nouveaux projets et assurer la qualité de l'enseignement auprès de nos étudiants.
Alors, maintenant la pause musicale attendue, chers auditeurs, chers invités, je vous propose d'écouter Les Chants de l'âme d'Olivier Greif. Voilà. C'est un concert qui a été capté en 2019 pendant l'août musical de Deauville. Voilà, c'est un CD que l'on trouve avec bonheur au label Beer Records qui est spécialisé dans la captation des lives. Donc, nous allons écouter un premier morceau de ce CD.
Art.
Vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tours. Je suis en studio avec mon invité Arnaud Rivière. Rebonjour.
Bonjour.
Alors Arnaud Rivière, vous êtes également membre du laboratoire de recherche en sciences de gestion qui est sur Tours et Orléans, le laboratoire Valorem. Est-ce que vous voulez, dans un premier temps, expliquer à nos auditeurs ce qu'est ce laboratoire ?
Donc Valorem, c'est Val de Loire Recherche en Management, donc c'est le laboratoire de recherche en sciences de gestion commun aux universités de Tours et d'Orléans, donc qui regroupe notamment les chercheurs qui sont en poste à l'IE de Tours, à l'IE d'Orléans, à l'IUT également d'Orléans, d'Issoudun, de Châteauroux et de Tours notamment. Donc on est une centaine à peu près de chercheurs en sciences de gestion dans différentes disciplines, et ce laboratoire est structuré en trois équipes, en trois sous-équipes en fait. Il y a une équipe plutôt spécialisé en ressources humaines et en stratégie, une autre plutôt en marketing, et puis une dernière plutôt en finance, contrôle de gestion, outils de pilotage. Donc on a donc ces trois équipes, donc avec une production scientifique régulière et de qualité, et puis on a également un certain nombre de projets de recherche qu'on a pu tissé avec des acteurs notamment régionaux comme le château de Chambord par exemple. Donc on a eu un APR, donc un projet régional avec Chambord et avec d'autres équipes de recherche de l'université de Tours, notamment le CESR, et puis donc le centre d'études de la Renaissance, et puis on a également participé il y a quelques années au projet biomédicaments, qui était un projet au sein de l'université qui avait pour but de développer justement les biomédicaments. Et donc il y avait un volet SHS, donc sciences humaines et sociales, sur lequel nous avons pu contribuer, notamment avec les économistes, sur ce sujet-là.
Et alors, vous plus particulièrement, quel est votre domaine de recherche ?
Donc moi, mon domaine de recherche s'articule autour de la notion de valeur perçue, des stratégies de création de valeur. Donc moi, je suis en marketing. Donc, je m'intéresse à la compréhension des comportements de consommation. Et pour comprendre justement ces comportements de consommation, eh bien, je m'intéresse à une notion qui est fondamentale en marketing, qui est la notion de valeur perçue, qui explique finalement, donc c'est une sorte de grille d'analyse qui permet d'expliquer pourquoi un consommateur va être amené à acheter ou non, à percevoir une certaine attractivité vis-à-vis d'une offre, vis-à-vis d'une marque ou non. Et cette notion de valeur perçue va également permettre d'expliquer pourquoi un client ou une entreprise peut être fidèle à une marque, par exemple. Donc l'idée, c'est de m'intéresser à cette notion de valeur perçue. Qu'est-ce qui crée de la valeur aux yeux des consommateurs ou aux yeux des entreprises ? Et premièrement, quelle est cette notion de valeur perçue ? Comment on peut la décortiquer, l'approfondir ? Et puis ensuite, qu'est-ce qui permet de créer de la valeur aux yeux des consommateurs ?
Donc par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais j'ai un produit que je veux vendre à des ménagères de moins de 50 ans. Mmh. Donc ça veut dire que je vais aller chercher qu'est-ce qui fait sens pour ce public, ou ça peut être des adolescents ou n'importe qui d'autre, de dire qu'est-ce qui fait sens pour ces personnes-là.
Oui, en fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de se dire en fait que une offre, en fait, alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le marketing, qui est une véritable science, hein, qui fait partie des sciences de gestion, l'idée du marketing, c'est pas de créer du rêve comme on peut parfois le penser, mais c'est créer de la valeur, en fait. Et l'idée, c'est que le produit ou le service que l'on va acheter en tant que consommateur, c'est juste un prétexte, un support qui va nous permettre, en tant que consommateur, d'accéder à de la valeur. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Quand j'achète une voiture, je peux percevoir, par exemple, une valeur utilitaire, fonctionnelle, parce que le véhicule va me permettre d'aller d'un point A à un point B. Je peux aussi percevoir de la valeur émotionnelle, affective, le fait de me sentir bien dans le cadre de ce véhicule, d'avoir des émotions quand je suis dans ce véhicule. Je peux aussi percevoir une valeur sociale. En achetant telle marque de véhicule, ça me permet de véhiculer une image statutaire auprès de mon entourage. Et puis, je peux aussi percevoir une valeur altruiste, c'est-à-dire que le fait d'acheter une voiture électrique ou une voiture hybride, eh bien, j'ai l'impression que cet achat est favorable et bon pour autrui, pour la société. Donc ça, c'est la valeur, c'est ce que je vais obtenir en acquérant le produit ou le service. Mais en achetant un produit ou un service, je vais aussi devoir concéder des choses. Alors concéder déjà de l'argent, donc c'est ce qu'on appelle le sacrifice monétaire, c'est le prix que je peux payer. Alors soit payer directement à l'achat, soit un prix que je peux payer au niveau de l'entretien. Par exemple, j'ai plutôt privilégié une voiture française plutôt qu'une voiture étrangère, parce que j'aime peut-être me dire que à l'entretien, la voiture étrangère va me coûter plus cher, par exemple. Et puis, je vais pouvoir aussi percevoir ce qu'on appelle un sacrifice non monétaire qui va être lié à la complexité, à l'effort, au temps, à l'énergie que je vais devoir investir pour comprendre. Par exemple, s'il y a trop d'électronique dans un véhicule, ça va me faire peur parce que je vais me dire, je vais passer un temps monstrueux à essayer de comprendre le fonctionnement de ce véhicule. Donc, en fait, on voit bien que pour une même offre, en fait, moi, en tant que consommateur, je peux percevoir un ou plusieurs types de bénéfices et en parallèle, je peux percevoir un ou plusieurs types de sacrifices. Et ce qui peut être aussi intéressant, et c'est aussi l'élément essentiel de la démarche en marketing, c'est que des consommateurs différents peuvent percevoir pour une même offre différents types de bénéfices ou différents types de sacrifices. Et donc l'objectif, c'est de se dire, dans un premier temps, quels sont ces groupes de consommateurs qui peuvent percevoir différents types de bénéfices ou différents types de sacrifices? Et ensuite, moi, en tant que marketeur, comment je peux faire pour m'adresser de manière adaptée mais différente à ces différents groupes de consommateurs. De sorte que, par exemple, s'il y a un groupe A qui, à l'égard de mon produit, valorise plutôt un bénéfice fonctionnel, je vais plutôt communiquer sur cet aspect fonctionnel, alors que si, pour la même offre, j'ai un autre groupe de consommateurs, qu'on appelle des segments en marketing, valorise plutôt un bénéfice émotionnel, eh bien, je vais plutôt communiquer sur ce bénéfice émotionnel pour bien valoriser mon produit. Donc je vais adapter ma communication, ma démarche marketing, en fonction des bénéfices et ou des sacrifices que mes consommateurs peuvent percevoir.
Alors peut-être un exemple pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut choisir, admettons, des chaussures, des baskets en toile montante? Disons de dire, peut-être qu'il y a une tranche de personnes qui va dire, moi je marche beaucoup dans le cadre de mon travail, donc j'ai besoin de chaussures confortables. Et peut-être une autre frange de la population plus jeune qui va dire, moi je veux ce produit parce que ça me permet de m'identifier à un groupe,
Exactement.
aux adolescents, enfin, dire comme
Oui.
ça, j'appartiens parce que
Oui.
j'achète ça.
On appelle de la valeur de lien. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, on voit bien que pour un même produit, des groupes de consommateurs peuvent percevoir des bénéfices différents. Donc, donc l'objectif de la démarche marketing, c'est déjà de comprendre finalement quels peuvent être les bénéfices perçus par ces différents groupes de consommateurs, et ensuite de pouvoir adapter toute la démarche marketing, toute la campagne de communication, notamment auprès de ces différents groupes de consommateurs.
Et alors comment on récolte ces ressentis?
Alors, essentiellement, en fait, par des études de marché, donc par la mise en place de questionnaires. Alors, nous, dans le cadre d'une démarche scientifique, on a des batteries de questions qui sont préformatées, qui permettent justement d'apprécier les bénéfices fonctionnels, les bénéfices émotionnels, les bénéfices altruistes, etc., etc. Donc, nous, on a des batteries de questions qui permettent, en interrogeant des consommateurs par des questionnaires, par des études de marché, eh bien de savoir, vis-à-vis d'une offre en particulier, quels sont les différents types de bénéfices et quels sont les différents types de sacrifices qu'ils peuvent percevoir.
Donc on peut imaginer, je reviens sur les voitures, par exemple, si on a une catégorie de population qui va dire qui associe le fait d'avoir une voiture au luxe, mais on sait que cette catégorie-là a des moyens financiers restreints, de dire qu'est-ce qu'on va imaginer pour qu'il y ait quand même une idée de luxe dans la voiture. Donc est-ce que c'est une couleur, est-ce que c'est comment dire, à l'intérieur de la voiture une matière particulière, qu'est-ce qui évoque le luxe?
Oui, ça peut effectivement orienter toutes les décisions en matière de design, de conception de produits. Effectivement, si on a des consommateurs qui valorisent plutôt l'aspect différenciant, l'aspect luxe, eh bien, ça permet aussi de peaufiner l'offre de produits pour renforcer justement la perception de ce type de bénéfices. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important pour guider la démarche marketing.
Et alors, entre le moment où on a une idée de produit et le moment de mise sur le marché, il s'écoule combien de temps, à
Alors,
peu près?
c'est très variable selon les produits, et puis ça dépend entre les produits et les services, par exemple, hein. Donc dans le secteur automobile, bien évidemment, ça peut se compter en plusieurs années, entre le moment où il y a un prototype et le moment où le produit va être commercialisé. Pour d'autres produits plus industriels ou pour des produits Wi-Fi ou électronique, bien évidemment, les délais entre l'idée et la mise sur le marché peuvent être beaucoup plus courts, puisque il y a un contexte aussi concurrentiel qui peut être plus important. Donc les délais de mise sur le marché peuvent être extrêmement variables. Et puis pour le domaine des services, eh bien, il est souvent fréquent de pouvoir lancer un service assez rapidement et de l'ajuster en temps réel en fonction de la réponse des consommateurs, que ce soit un nouveau concept, par exemple d'émission télévisuelle, ou un nouveau concept de distribution en magasin. Donc ça, voilà, on peut avoir des démarches complètement différentes selon qu'on est dans le cadre des produits ou des services.
Et à partir de quand toutes ces démarches sont devenues indispensables, à une entreprise?
Bah, en fait, ces démarches, elles sont dans le cœur même de la démarche marketing. C'est-à-dire que l'idée, au fond, quand on étudie la valeur perçue en amont, la conception d'une offre, finalement, c'est l'écoute du consommateur. Je vais d'abord essayer de comprendre ce que veut mon consommateur et ensuite je vais adapter mon offre. Alors, le marketing a formalisé cette démarche, mais finalement, quand on remonte à des temps très anciens, cette démarche d'écoute du client se faisait plus ou moins de manière formelle, mais elle se faisait en fait. Donc cette écoute du client, cette bienveillance, ce contact avec les clients pour essayer de bien cerner ce qu'ils souhaitent et essayer d'adapter une réponse, enfin, d'adapter une offre qui puisse satisfaire ses besoins, elle s'est fait depuis de très nombreuses années. Donc le marketing a juste formalisé, a juste finalement industrialisé entre guillemets cette démarche-là avec en développant des outils, des approches, des concepts, des cadres d'analyse qui permettent de formaliser. Quand on parle de la notion de valeur perçue, les premiers chercheurs qui ont travaillé sur cette notion de valeur perçue, ils datent globalement des années 80. Mais en fait, c'est un cadre d'analyse qui a été emprunté de l'économie et qui permet finalement de poser un nouveau regard ou un regard renouvelé sur les motivations et les freins des consommateurs à acheter ou à ne pas acheter une offre ou que ce soit un produit ou un service.
Alors ça veut dire que même si j'achète, admettons, un savon bio sans emballage, on me présente comme un produit 100% naturel, sans publicité et compagnie, c'est encore du marketing.
Bien sûr, parce que juste le fait qu'il soit positionné comme un savon bio, ça veut dire qu'il est bien enfin, il y a eu toute une réflexion en amont pour savoir si déjà il y avait un marché susceptible d'être intéressant pour ce type de positionnement. Et bien évidemment, le fait qu'il soit sans emballage, le fait qu'il soit bio, ça répond aussi à une demande actuelle, à une tendance actuelle. Et bien évidemment, toutes les offres sont entre guillemets marketées, mais encore une fois, le marketing, alors souvent on le présente comme le grand capitaliste ou le grand méchant loup, etc. En fait, le marketing, c'est aussi une étude des besoins, une étude des attentes des consommateurs, et de voir finalement comment on peut répondre mieux aux attentes des consommateurs. Et le marketing, en fait, souvent on le situe dans le domaine industriel, dans le domaine de la grande consommation, mais moi je mène aussi par exemple des recherches en appliquant ce cadre de la valeur perçue dans le domaine de la santé par exemple, sur tout ce qu'on appelle les programmes d'éducation thérapeutique qui permettent aux patients qui sont sujets à des maladies de pouvoir être plus autonomes dans leur maladie. Et en fait, il y a des programmes au sein des hôpitaux qui permettent justement d'autonomiser ou de donner plus d'autonomie aux patients. Et en fait, le fait de déployer cette démarche de la valeur perçue, donc d'écoute du patient, c'est juste de savoir si les dispositifs qui sont mis en place par les hôpitaux pour donner plus d'autonomie aux patients, eh bien, est-ce que ces dispositifs, est-ce que ces programmes, finalement, sont bien perçus par les patients et est-ce qu'ils sont bien adaptés aux patients? Donc là, vous voyez, on sort d'une logique finalement purement mercantile pour élargir le spectre et l'objet même du marketing. Donc le marketing, c'est pas que de l'argent, c'est pas que du mercantile, c'est pas que du grand capitalisme, mais c'est voilà, c'est aussi ça en fait. C'est aussi dans le domaine de la santé, même si parfois on a l'impression que les deux peuvent être opposés ou antagonistes, mais on peut vraiment associer cette démarche de marketing, que ce soit un client, que ce soit un patient, que ce soit n'importe quel acteur, Et l'idée du marketing, c'est vraiment de pouvoir écouter les besoins des clients pour ensuite adapter une offre. Et c'est pas le marketing, c'est pas vendre ce dont on n'a pas besoin. Voilà. Le marketing ne peut pas créer les besoins. Ça fait partie de mes premiers propos, de mes cours de marketing aux premières années. Le marketing n'a pas cette vocation-là de créer des besoins. C'est pas possible de créer des besoins. On peut susciter des besoins latents. Enfin, on peut répondre à des besoins latents, mais on ne peut pas créer des besoins.
Alors, il y a des déçus dans l'auditoire quand vous dites ça?
Bah, y a toujours des déçus, y a toujours des personnes qui se disent mais non, parce que moi j'ai acheté tel produit alors que à cause de cette publicité, alors que j'en avais pas forcément envie. Mais en fait, quand je vois une publicité, c'est juste que voilà, si je passe à l'acte d'achat, c'est parce que ça va juste activer un besoin qui était latent, dont j'avais conscience ou pas en moi, mais qui était latent. Donc quand je, par exemple, je vais acheter un smartphone surdimensionné par rapport à mes besoins, si je l'ai acheté, c'est parce que j'avais non pas forcément un besoin utilitaire de fonctionnalité, mais j'avais sûrement un besoin émotionnel de pouvoir me faire plaisir en essayant plein de fonctionnalités, ou un besoin social de montrer auprès de mon entourage que mon dernier smartphone était ultra performant par rapport à ceux qui peuvent en avoir. Donc voilà, donc il y a en fait le marketing va répondre non pas qu'à des besoins utilitaires, mais peut aussi répondre, comme on le disait tout à l'heure, à des besoins émotionnels, affectifs, altruistes, sociaux, d'image sociale, qui sont autant de raisons qui vont pouvoir pousser un consommateur à acheter.
On est presque dans la thérapie là alors.
C'est pas dans la thérapie, mais c'est vrai que le marketing repose beaucoup. En fait, le marketing, c'est une science jeune, hein. On repose beaucoup à la fois sur l'économie et puis sur toutes les sciences psychosociales, où effectivement, on va s'appuyer sur la psychologie du consommateur pour essayer de mieux comprendre ses comportements et ses actes d'achat.
Est-ce qu'il y a quand même des gens qui arrivent à créer du besoin? Parce que c'est quand même quelque chose qui revient très souvent, donc vous nous dites c'est clairement pas du côté du marketing, mais c'est où alors? D'où vient cette illusion que certains ou certaines ont le pouvoir de créer des besoins?
Parce que je pense qu'on a toujours l'image du marketing avec le commercial, le vendeur d'encyclopédie, le pied dans la porte, qui veut nous vendre une encyclopédie dont on n'a pas besoin. Alors ça, c'est pas du marketing, ça c'est la démarche commerciale, la mauvaise démarche commerciale, où l'opérateur téléphonique qui va de téléphonie qui va nous appeler le soir ou qui va nous harceler à longueur de semaine ou à longueur d'année. Ça c'est de la mauvaise démarche commerciale, mais on voit bien que ces types de démarches ont tendance quand même à disparaître, ou du moins à devenir de plus en plus enfin, de moins en moins nombreuses. Donc ça, c'est pas du marketing. Le marketing, c'est vraiment, comme on l'a dit, c'est une science avec une méthodologie, une démarche, une logique, un objectif. Encore une fois, l'objectif du marketing, hein, je le redis, c'est vraiment de pouvoir créer de la valeur qui est perçue par les clients. Donc dès lors qu'on va créer de la valeur qui est perçue par les clients, on répond bien à une demande latente des clients de pouvoir obtenir via leur achat de consommation, via leur acte de consommation, de la valeur perçue.
Et d'ailleurs, si on veut en savoir plus, Arnaud Rivière, vous êtes venu ici muni d'un ouvrage, La valeur perçue en marketing, perspectives théoriques et enjeux managériaux. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur cet ouvrage?
Alors en fait, c'est un ouvrage qui s'intéresse donc à cette notion de valeur perçue. Alors c'est étonnant, puisque en fait cette notion de valeur perçue, en fait, c'est le cœur du marketing, puisque maintenant on définit l'objectif du marketing comme étant en fait, l'objectif du marketing, c'est vraiment de créer de la valeur qui soit perçue par l'ensemble des parties prenantes, notamment en marketing, les clients. Et en fait, cette notion, elle est au cœur de la démarche marketing. Elle a vraiment été définie comme un objectif du marketing, mais pour autant, elle est assez peu enseignée en tant que telle. On en parle assez peu dans les cours de marketing, on parle beaucoup de satisfaction, on parle beaucoup de fidélité, on parle finalement en proportion assez peu de cette notion de valeur perçue. Et cette notion de valeur perçue, par ailleurs, elle a été étudiée assez fortement en marketing, à partir des années 80 jusqu'à présent. Et en fait, il y a beaucoup de débats sur cette notion de valeur perçue, il y a beaucoup d'approches qui peuvent être parfois contradictoires, parce qu'en fait, cette notion de valeur perçue a à la fois été traitée dans plein de sciences humaines et sociales, en économie notamment, en philosophie, en sociologie, en psychologie. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur cette notion de valeur, avec des approches parfois différentes, conciliables ou non. Donc il y a eu beaucoup de débats. Et l'objectif de cet ouvrage que j'ai coordonné, donc c'est un ouvrage collectif, hein, que j'ai coordonné avec mon collègue Rémi Mancarelli de l'université de Savoie-Mont-Blanc. L'idée, c'était de faire un peu la lumière sur cette notion de valeur perçue, parce qu'en fait, c'est une notion qui intéresse énormément les entreprises. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec le groupe Renault au Technocentre à Paris. J'ai pu travailler avec d'autres collègues, avec Médiamétrie, avec mes collègues de Valorem, avec le Château de Chambord, et à chaque fois, avec notamment la régie publicitaire du Monde aussi. Et à chaque fois, en fait, on a déployé cette notion de valeur perçue, qui est vraiment un cadre d'analyse qui intéresse les entreprises, puisque ça permet vraiment de structurer vraiment l'étude des motivations et des freins de leurs consommateurs ou de leurs lecteurs. Cette notion, elle est extrêmement importante pour les entreprises, elle est extrêmement importante également pour les chercheurs. L'objectif de cet ouvrage, c'était d'essayer, modestement, hein, mais de clarifier un petit peu les différents débats, les différentes positions, puis de montrer aussi l'importance et les enjeux, puisqu'en fait, à la fin de l'ouvrage, il y a toute une application sectorielle, il y a la valeur perçue, enfin l'intérêt de la valeur perçue dans le domaine de la presse, dans le domaine des aliments, dans le domaine du sport. Donc, il y a toute une déclinaison pour montrer justement l'importance de la valeur perçue dans tout un ensemble de secteurs d'activité. L'objectif, c'est vraiment de faire la lumière sur cette notion de valeur perçue. Donc l'objectif de l'ouvrage, donc c'est un ouvrage collectif, on a essayé de rassembler les plus grands spécialistes de cette notion de valeur perçue, francophones et internationaux, puisque on a notamment Martina Galarza, on a Maurice Holbrooke, qui sont les grands pontes internationaux de cette notion de valeur perçue. Et donc l'idée, c'était vraiment de rassembler toute cette communauté de chercheurs qui s'est consacrée à la notion de valeur perçue, et de faire un point, j'espère, assez clair sur cette notion de valeur perçue. Et l'objectif, au fond, c'est à la fois d'être un ouvrage qui puisse être accessible aux entreprises, qui souhaitent vraiment creuser cette notion de valeur perçue comme un cadre d'analyse de leurs motivations et freins de leurs consommateurs, et puis d'offrir un manuel utile, notamment pour les doctorants, je pense aux doctorants, qui seraient à même de s'intéresser à cette notion de valeur perçue. Et je pense que la lecture de cet ouvrage peut être pour eux un bon moyen de mettre un premier pied dans cette littérature foisonnante consacrée à la valeur perçue en marketing.
C'est-à-dire que c'est un sujet, c'est un top sujet, ça? C'est-à-dire qu'on trouve plein de publications.
Oui, énormément de publications. Oui, il y a eu beaucoup de publications depuis les années 80 et l'effervescence continue depuis 40 ans. L'effervescence continue sur cette notion de valeur perçue. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression finalement qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais finalement, les publications sur cette notion de valeur perçue continuent. Maintenant, on parle de co-création de valeur, enfin, depuis plus de 10 ans. Donc il y a eu tout un ensemble de paradigmes, de nouvelles approches qui ont renouvelé l'intérêt que les chercheurs ont pu porter à cette notion de valeur perçue. Donc c'est à la fois une notion essentielle, importante pour les entreprises, pour les chercheurs, et qui est toujours l'objet de travaux, de recherches, et notamment Valorem, hein, le laboratoire Valorem, est spécialisé sur cette notion de valeur perçue, et a un vrai positionnement au niveau national sur cette notion de valeur perçue dans la recherche en marketing.
Voilà, donc on peut rappeler la valeur perçue en marketing, ça se trouve aux presses universitaires de Provence, Travail, Collection Travail et Gouvernance. Donc on ne manquera pas de mettre ça en lien sur le podcast pour que les auditeurs puissent le retrouver. Et j'ai vu qu'il y avait annoncé un colloque sur le prix et la valeur le 11 et 12 juin. Alors, Covid oblige, est-ce que c'est maintenu ou pas?
Eh bien, en fait, on l'a maintenu, ce colloque. Alors, il devait bien évidemment se faire en présentiel. Avec la crise sanitaire, il n'a pas pu se faire en présentiel, mais on l'a fait donc via Internet, donc via la solution Zoom, qui a permis donc du coup de tenir ce colloque le 12 juin. Et on était une cinquantaine de chercheurs. Donc ça, c'est un colloque récurrent, hein, le colloque Prix et Valeurs. Alors, tous les 2 ans, il était organisé par le laboratoire Valorem. Maintenant, il va être organisé tous les ans. Et donc, il réunit une communauté de chercheurs très fidèles sur cette notion de valeur et de prix. Et donc, on a donc organisé ce colloque donc en distanciel avec donc une cinquantaine de chercheurs de toute la France, et y compris même internationaux, puisqu'il y avait des chercheurs internationaux qui ont assisté à ce colloque. Et donc, on a eu tout un ensemble de présentations extrêmement intéressantes sur ces deux sujets qui sont finalement en lien, hein, la notion de valeur et de prix, puisque plus on va créer de la valeur et plus finalement, le consentement à payer du consommateur peut être important. Donc, les notions de valeur et de prix sont extrêmement liées. Et c'est pour cela qu'on a fait ce colloque thématique qui bénéficie vraiment d'une véritable notoriété dans sa communauté, au niveau national, voire international.
Est-ce qu'on le retrouve en ligne à ce colloque?
Alors, on retrouve tous les actes de colloque, donc toutes les communications qui ont été présentées sur le site de Valorem. Sur le site de Valorem, vous avez toutes les communications en format PDF qui ont été présentées lors de cette journée-là, ainsi que toutes les communications qui ont été présentées lors des éditions précédentes. Donc, je vous incite à aller faire un tour sur le site du laboratoire Valorem, VA2LOREM.
Bien, merci Arnaud Rivière d'être venu nous présenter l'IAE et ce qu'est la valeur perçue en marketing. Donc, on rappelle que vous êtes directeur de l'IAE Tourval-de-Loire et également professeur des universités affilié au laboratoire de recherche en sciences de gestion sur Tours et Orléans, le laboratoire Valorem. Merci à vous.
Merci.
Et voici maintenant la rubrique Soins de soi. Running Bill. C'était un mardi. L'ascenseur était en retard. Tu as décidé d'y aller par les escaliers. Quelle ne fut pas ta surprise, une demi-volée de marche plus bas, de retrouver tes poumons gisant sur le sol, implorant ta pitié, Rassemblant leur maigre dernier souffle, ils clamaient « Plus jamais ça !» Tu t'es alors dit « Faudrait peut-être que je me mette au sport. » Et tu as choisi la course à pied. Tu en avais déjà fait dans le temps, le jour où tu avais failli rater le bus et où tu l'avais finalement raté. Et puis, c'est très à la mode, mais bon, ça, c'est pas de ta faute. Tu t'es dit « La course à pied, c'est facile. » Il suffit de déplacer ses pieds d'avant en arrière de manière cyclique et autant que possible rapidement. C'est bien plus simple que le plongeon synchronisé ou que le surf des neiges. Première erreur. Tu as aussi pensé, et puis c'est pas très cher, des chaussures, un slip et vogue la galère. Deuxième erreur. Jeune naïf, tu as confondu le noble art de la course à pied avec le jogging du dimanche. Alors tu es parti dans la forêt. Les oiseaux gazouillaient, les rivières frétillaient, les chiens batifolaient, les jeunes se droguaient. Pendant que ton cœur battait la chamade et tes pieds la campagne, tu t'es dit que ce ne serait pas si facile que ça. De sa douce voix robotique, Igor, de l'application Run and Fun, que tu venais de télécharger afin de t'accompagner dans tes velléités hygiénistes, annonça sans l'ombre d'un trémolo « Time, 5 minutes. Distance, 5 meters. I call the ambulance. » Comme tu es quelqu'un de méthodique, tu t'es dit « de la méthode, de la méthode. » De retour dans le confort de ton canapé, tu as enfourché ton navigateur et tu as googlé « astuce running ». Car on ne dit plus course à pied mais running, de même qu'on ne dit plus autoportrait mais selfie. Mais avant de faire le selfie de ton running, attends d'arriver vivant au coin de l'immeuble, tu veux bien? Et là, drame. Catastrophe patatras. En réalité, c'est hyper compliqué. Il faut faire des fractionnés, des côtes, dire des choses comme « j'étais à peine à 80% de mon cardio ». Ça avait l'air tellement scientifique que même l'astronomie t'apparaissait soudainement moins nébuleuse. Il te fallait des chaussures adaptées à la courbure de ton pied, des chaussettes adaptées à la courbure de tes chaussures, un porte-téléphone portable adapté à ton téléphone portable, et comme, jeune rebelle, tu en possèdes un qui ne prend pas de i devant, tu as dû faire fabriquer l'objet sur mesure par des enfants birmans. Il te faut une casquette aérodynamique, des boissons isotoniques, une compilation de chants de l'armée rouge soigneusement étudiés pour épouser au mieux ta progression rythmique. Une fois équipé, tu étais plus pauvre que si tu avais opté pour le golf ou le cheval. Mais tu pouvais enfin te remettre à galoper, libre et flamboyant, au milieu des oiseaux rieurs, des frères ruisseaux, des chiens bornes et des jeunes indolents. Alors tu as pris ton courage à deux mains et ta voiture à propulsion mécanique pour aller au bord du lac, comme exactement 17 932 autres coureurs. Très bien, tu en as profité pour observer attentivement les autres athlètes dominicaux. En effet, il en existe plusieurs types. Les vrais sportifs, que l'on reconnaît à leur foulée altière et régulière. Les gens à qui leur médecin a ordonné de faire du sport dans les 5 minutes, que l'on reconnaît à leurs exaltations rauques et au regard désespéré qu'ils jettent à l'horizon. Les urbains, que l'on reconnaît à leurs équipements dernier cri, cuissettes hypothermiques, slip fuselé en titane, et au fait qu'ils pratiquent le running en petites grappes de 5000. Tu as attrapé au vol la foulée d'un membre éminent de la deuxième catégorie, et tu t'es senti pousser des ailes quand tu l'as irrémédiablement lâché dans la première difficulté du jour. Et puis il a plu. Et ton doux visage a disparu. Tu as fait une petite pause dans ton entraînement, à peine une semaine, 8 mois. Quand tu as voulu t'y remettre, tout était à refaire. Rusé, tu t'es dit, cette fois, je n'abandonnerai pas dès le premier frimas. Et puis l'hiver a été doux, alors ça va. Tu t'es inscrit à une course, une vraie, avec des podiums. Mais ne t'inquiète pas, tu ne les verras que de loin. Des dossards et un ravitaillement à mi-chemin, qui s'avérera décevant, ni entrecôte, ni champagne millésimé, et à peine un verre d'eau. Tu t'es entraîné dur, avec un objectif précis, ne pas finir dernier. Tu as observé attentivement les résultats des 8 dernières années, et tu t'es dit que cet exploit historique serait possible à condition de te munir de petits clous rouillés à glisser dans les chaussures de tes contradicteurs. Puis, de fil en aiguille, ce fut le jour J. Tu es arrivé en avance, sur le lieu de ton forfait. Tu as eu le temps de t'échauffer, et surtout de copieusement t'ennuyer. Puis, ce fut le coup de feu signalant le départ, et tu as pris tes jambes à ton cou, à toi, virevoltant comme un cabri malicieux dans le peloton effréné. Très vite, tu trouveras ta juste place, loin derrière les Kenyans égarés et les vrais sportifs, loin derrière les gens venus là pour se dégourdir les jambes avant leur 16 marathon de la semaine prochaine, loin derrière pas mal de monde en fait, mais tout de même, pas derrière tout le monde. Tu devançais fièrement de nombreux sportifs et tu feignis de ne pas voir que la plupart couraient dans la catégorie plus de 110 ans et plus de 7 paquets par jour. Tu jouais des coudes pour te faufiler dans cette masse suante. Tu remontais allègrement de la 913e à la 828e place quand soudain, un panneau 1 km. Ça alors, le temps passe vite, plus que 14. Plus que 7 montées qui se profilent de loin. Et les 8 suivantes, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et c'est pour ça que je voulais te prévenir. Fais bien attention, petit. Le sport, ils y mettent plein de saloperies pour que ça rende accro. Et en plus, c'est dangereux pour la santé, alors fais bien attention. C'était un message de prévention de l'Association pour la prévention contre le sport.